France Inter.
Écrivain et ancienne avocate d'affaires puis pénaliste, Constance Debray a notamment publié Un peu là, beaucoup ailleurs, Manuel pratique de l'idéal, Playboy, Love Me Tender, Non, N-O-M et Offense au pluriel. Dans un style sec et à l'os que j'ai plus retrouvé dans la littérature américaine que française, elle a narré son passé, sa famille, ses flirts, ses ruptures et l'homosexualité qui lui vaudra la perte de la garde de son fils une fois découverte par le père de celui-ci. Les thèmes que je viens d'égrener ne la constituent pas. Elle cherche la vérité, la justesse, pas à plaire. L'ascétique ne semble avoir d'attache nulle part. Elle a connu le chaos et l'accepte, bien que les règles ou tout système en usant la rassure. Il en est justement question dans son dernier ouvrage paru chez Flammarion, Protocole, chapitre détaillant les différentes façons de mettre à mort les condamnés aux États-Unis, entrecoupé de séquences racontant l'errance de l'auteur parmi des êtres perdus, mais comme nous le sommes finalement un peu tous, semble-t-il, depuis le début de l'humanité. Aujourd'hui, on peut encore tuer son prochain légalement, notamment dans les maisons d'arrêt américaines. En 2024, 9 États ont appliqué la peine de mort et 25 personnes ont été exécutées. Chaque mise à mort obéit à un protocole très détaillé dans lequel rien n'est laissé au hasard ou ignoré, en dehors sans doute de la souffrance des futurs trépassés. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Constance Debray.
Bonsoir Eva Bester.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmée ?
C'est tout à l'heure quand j'étais chez le dentiste et que la douleur a disparu. Je trouve ça toujours formidable.
La douleur qui était avant d'aller chez le dentiste.
Oui.
Comment il a fait? Qu'est-ce qu'il vous a donné?
Je ne sais rien, c'est son boulot.
Ok. Alors, vous
j'aime bien la compétence.
Oui, ça, bah, la compétence est toujours appréciable. Vous semblez avoir un rapport étrange à la joie. Je n'oserais pas employer le mot bonheur, mais vous avez dit récemment au Monde « Je suis traversée par la recherche de la vie juste, la question du bonheur ne m'a jamais intéressée. Je ne sais même pas ce que c'est, ce qui compte, c'est le comment vivre. » Avez-vous des pistes ?
J'en ai pour moi-même, enfin oui, je crois que je suis arrivée en tout cas à un endroit où je suis contente d'être. J'ai l'impression que ce que je fais a du sens et m'intéresse.
Vous sentez à votre place ?
Oui, parce que
c'est exactement. Très difficile ça, c'est rare, c'est la quête de toute une vie souvent.
Ben oui, mais c'est une place, c'est toujours une question d'équilibre, c'est-à-dire qu'il faut être en mouvement, et donc comment le mouvement est un jeu entre l'équilibre et le déséquilibre. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce que je fais, c'est-à-dire c'est les choses que je produis, c'est, si j'ose dire, c'est dans mes livres. Après, évidemment, qu'à un niveau plus personnel. J'ai rien contre la joie ou le bonheur, mais c'est pas ce que je cherche, disons. Ouais. Paraît très curieux d'ailleurs d'avoir placé le bonheur comme un projet de société ou une obligation, quelque chose dont on doit rendre compte tout le temps.
C'est vrai, ça commence dès l'Antiquité et les philosophes.
Oui, mais paraît pas être un but en soi.
Peut-être une force. Vous avez perdu vos deux parents, vous avez raconté leur addiction à la drogue, leurs démons, mais aussi leur beauté. Et vous dites au sujet de la mort de votre mère d'une overdose lorsque vous aviez 16 ans, que c'était la meilleure chose qui vous soit arrivée malgré l'immense chagrin. J'aimerais bien que vous reveniez sur ça, parce que c'est vrai que ça peut paraître paradoxal, mais parfois il y a une libération dans la mort des gens qu'on aime.
D'abord, j'ai toujours essayé, je pense même instinctivement, de faire mienne la maxime amor fati. Il faut aimer ce qui tombe ou ce qui arrive. Et je crois qu'il y a je pense que c'est une bonne maxime et par ailleurs, il y a quelque chose quand la pire angoisse se réalise, ben, elle disparaît. Alors, elle est remplacée par d'autres sentiments négatifs, par exemple le chagrin, bien sûr. Mais au moins, il n'y a plus angoisse. Et donc voilà, ça m'a libérée de l'angoisse, ça m'a libérée de cette relation angoissée. Et des années qui ont précédé la mort de ma mère étaient assez difficiles, oui. Donc ça. Ça m'a permis de. Les années qui ont suivi étaient assez. Enfin, en tout cas, ont été très importantes pour moi. intellectuellement. J'étais beaucoup plus libre et détendue pour tout d'un coup m'intéresser à ce que je faisais. C'est un âge où on peut s'intéresser à beaucoup de choses. J'avais 16 ans, 17 ans, donc je me suis mise à travailler, ce que je faisais peu avant, et à lire beaucoup, bien sûr, par exemple.
Vous êtes orpheline, je ne dis pas ça parce que je suis voyeuse, parce que je le suis aussi, ça m'intéresse d'autant plus et j'imagine qu'il y a plein d'auditeurs dans le même cas. C'est vrai qu'on se dit que la pire chose qui puisse arriver, une fois qu'elle est arrivée, c'est fait. Et vous dites, et en vrai, ça va. Mais ma question c'est, mais en vrai, est-ce que ça va? Puisque vous dites aussi, bon, vous nagez énormément et tout le monde vous en parle, alors je ne vais pas vous en parler, mais vous dites, je n'irai pas nager tous les matins comme je le fais aujourd'hui si j'allais bien.
Non, mais ça a été un peu... c'est pas comme ça que je l'ai dit, si jamais je l'ai dit. Ouais. Non, ça, je suis très contente d'avoir cette discipline un peu folle. Moi, j'aime bien d'abord, j'aime la discipline, je trouve que c'est très beau. J'aime être cette personne qui nage tous les matins. Et c'est dur, ouais. Mais c'est parce que c'est dur que j'aime ça. Voilà.
Vous savez toujours tirer parce que votre mère vous a acheté une carabine à 15 ans.
Ça fait très longtemps que j'ai pas tiré.
Mais vous pourriez.
C'est pas très compliqué, hein. Je crois que ça, malheureusement, on est au courant que c'est pas très compliqué.
Je suis sûre que je pourrais rater. Vous étiez avocate, vous défendiez autrui, et vous, qui vous défend?
Je ne sais pas, mais je n'ai pas besoin d'être défendue, enfin, pour l'instant. Mais ça m'est arrivé d'être jugée dans des affaires, pas pénales, mais... disons familiale, et je me suis aperçue de ce que c'était qu'avoir un avocat. C'est très rassurant.
C'est rassurant ?
Ouais. Bah oui, c'est rassurant d'avoir quelqu'un qui va parler pour vous, parce que vous n'êtes pas en mesure. On peut jamais se défendre soi-même. On ne peut pas se défendre soi-même.
Je crois que vous avez défendu votre père il y a longtemps.
Non, jamais, bien sûr que
ah
non.
Bon, j'ai lu ça dans
bah
un
oui,
article.
Mais si vous croyez tout ce qu'on lit.
Non, je ne crois pas tout ce qu'on lit. Voilà. Mais je le reprends, mais j'aime bien quand on me contredit.
C'est impossible en réalité. Parce qu'il y a un conflit d'intérêt, bien sûr.
Oui. Ouais.
Et par ailleurs, même si ça avait été possible, j'aurais jamais accepté.
D'accord. Alors, sans transition, je passe à vos tatouages. Il paraît que vous avez sur le corps, enfin sur un bras, le détail d'un tableau du Caravage.
Oui, c'est... Ouais.
Et bon. Je peux dire ce que vous avez sur le ventre?
Oui.
Fils de pute.
Ah, que j'ai fait barrer il y a très longtemps.
Vous l'avez fait barrer?
Oui.
Et qu'est-ce que vous avez sur le dos? Parce que j'ai vu une photo de vous, torse nu.
Dieu.
Bah dans les médias récemment.
Ouais. Oui.
Vous avez des tatouages.
J'ai des tatouages, j'ai plein de conneries, mais l'intérêt des tatouages dans le dos, c'est qu'on ne les voit pas soi-même, donc c'est très bien.
La 20e heure. Eva Bester. Sur France Inter.
Constance Debray, tout votre cheminement tourne autour de l'idée de liberté, de l'affranchissement. Et dans votre livre, un peu là, beaucoup ailleurs, il y a déjà des échos de moines anachorètes. Moi, c'est à ça que je pense quand je pense à vous.
Je me souviens pas du tout de ce livre.
C'est vrai, en tout cas, je vous vois un peu comme Saint Antoine qui lutte contre des démons qui lui sont personnels, quoi. Pas ceux qu'on voit sur les gravures, mais...
Bah, j'aime bien l'image, oui, ce type d'image, je veux dire d'image, de figure. Et comme je suis assez monomaniaque, j'ai tendance à faire le vide pour me concentrer sur ce que j'estime devoir être fait, c'est-à-dire écrire.
Est-ce que vous affrontez tout?
Comme tout le monde, je pense, j'affronte ce qui arrive au mieux.
Tout le monde n'affronte pas ce qui arrive.
Ah bah on est bien obligé.
Parfois on peut feinter ou être dans le déni. Vous avez consacré votre livre Love Me Tender à votre fils Elvis et je ne mettrai pas la chanson d'Elvis Presley, je vous le promets. Votre ex vous a accusé de multiples choses, a également cité le contenu de votre bibliothèque pour vous empêcher à l'époque de voir votre fils. Et il a cité notamment Bataille du Vert Guibert. Alors moi ce qui m'intéresse, c'est pas les affaires judiciaires avec votre ex, c'est la littérature. Quel est le livre le plus choquant qui soit selon vous? Et pas forcément parmi Bataille du Vert ou Guibert.
Ça, alors, si vous élargissez à toute la littérature, ouais. ça, il faudrait que je réfléchisse un peu. Mais je pense que parmi ceux que vous avez cités, il y en a un qui est un auteur qui est particulièrement choquant. En tout cas, aujourd'hui, c'est Duvers.
Vous pouvez expliquer pourquoi.
Tony Duvers, qui, à mon sens, est un très grand écrivain, serait ou est aujourd'hui, me semble-t-il, impubliable Et il est même difficilement lisible, c'est vrai, parce que il parle notamment d'histoires pédophiles. Et de relations avec des enfants ou des jeunes enfants. Parfois c'est lui qui est l'enfant puisqu'il a été dans cette position-là, et parfois c'est lui qui est l'adulte. Et bon, bien sûr, tout ça est de la fiction, mais la fiction elle-même est dérangeante, et la réalité qu'il y a derrière l'est aussi. Et pourtant, je continue à dire que c'est un immense écrivain. Et par ailleurs, sa vie, enfin, est très triste. Il s'est jamais remis. Enfin, il a disparu du paysage. Et je crois qu'il a eu le prix Médicis, ou je ne sais plus quel prix, en 1980. Il était soutenu par Barthes. J'espère que je me trompe ni dans le prix ni dans la date. Et après, il a un peu été publié par Minuit. Il a un peu disparu. Je crois qu'il n'arrivait pas à vivre dans le monde. Et il a été retrouvé mort chez lui, en Touraine, dans la maison de sa mère. Mais des semaines après sa mort, enfin, il vivait dans les conditions. Il est mort et il vivait avant dans des conditions assez tristes, quoi. Oui. Mais un grand écrivain.
Est-ce que vous pensez qu'il faille interdire la lecture de certains écrivains, sachant que moi aussi j'aime plein d'écrivains très dérangeants dont on pourrait dire qu'ils sont impubliables aujourd'hui?
Je pense pas qu'il faille. Je suis plutôt contre l'interdiction. C'est plutôt ma pente personnelle, sans surprise évidemment. Mais on peut. Je pense qu'on peut avoir. On peut avoir un jugement moral sur les œuvres. Et s'agit pas du sujet qui traite. Enfin, c'est pas seulement la question. Par exemple, pour Duvers, je dirais pas que Duvers est dérangeant, mais il me gêne peut-être moins que d'autres auteurs qui traitent de sujets moins choquants. Et bien sûr que je vais vous dire des banalités, mais que bien sûr que la littérature est aussi là pour nous permettre d'explorer, je pense, intellectuellement des recoins sombres, désagréables de nous-mêmes ou des autres.
Vous, parce que les avocats souvent connaissent absolument toute la noirceur humaine, ils l'ont vraiment balayée, embrassée, fréquentée. Ne trouvez-vous pas dangereux le déni qu'il y a aujourd'hui? Bon, c'est une question un peu orientée. Le déni qu'il y a aujourd'hui du mal. À un moment dans Protocole, vous écrivez qu'on emploie aussi mal justement le mot mal que le mot amour. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est tabou le mal, on ne veut pas le voir en l'humain. Or, on l'a tous en nous. Et c'est encore plus dangereux de le nier.
Oui, c'est encore plus intéressant. Enfin, de toute façon, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il y a cette. Je suis très frappée par le fait qu'on parle souvent des monstres et qu'on cherche, notamment, par exemple, quand on rend compte ou que les médias, etc., rendent compte d'affaires judiciaires. On va toujours dire que c'est que celui qui a commis tel ou tel crime est un monstre. Ça n'existe pas.
Ça n'existe pas. Un monstre univoque.
Non, voilà, c'est toujours une figure de. C'est toujours un n'importe quel homme est un homme, est une part de l'humanité. Et quant au mal, oui, c'est-à-dire que je ne sais pas si on est dans le déni parce qu'on est aussi. Il est tout autour de nous. On est tous évidemment plongés dans un monde fait de mal. Et je veux dire les questions contemporaines, politiques qui nous entourent aujourd'hui en 2026 ont à voir avec la question du mal. Moi, ça me et je crois que les plus grandes œuvres traitent de cette chose-là. Et on peut pas le démêler. Je pense pas qu'il puisse y avoir de beau sans horreur.
En vous délaissant de tout, vous avez opéré une sorte de conversion, c'est vous qui le dites, une conversion, quelle qu'elle soit, vous déplace et vous voyez les choses sous un autre angle, elle se dénoue, ça donne un élan, une foi, peu importe comme on nomme cela. Et là, la question est la suivante, quel est votre rapport à la foi, quelle qu'elle soit, la transcendance, le sacré?
Je ne sais pas. Je me pose pas tellement la question. Je vis peut-être d'une façon un peu religieuse dans un monde très très réel et je ne connais que le présent, que la réalité. Elle me passionne, elle m'intéresse beaucoup. Mais en revanche, je trouve que dans les mythes, d'une façon générale, dans la religion chrétienne ou dans certains mouvements de pensée du catholicisme, par exemple, le jansénisme, des choses qui m'intéressent et qui me paraissent une très bonne, qui pour moi me permet de lire le réel. Voilà. Mais j'ai pas besoin de penser ni à un dieu, ni à une vie après la mort. Pour autant.
Vous semblez, vous êtes débarrassé de tous les faux-semblants dont nous sommes toujours entourés, parce que finalement on est toujours des comédiens sans le vouloir, presque des courtisans, même si ça nous dégoûte et qu'on le veut pas. Est-ce que c'est vrai soulagement de...
Mais je prétendrais pas m'être libéré de...
C'est vrai.
Mais enfin, ce serait extrêmement prétentieux et arrogant.
Mais vous dites parfois justement qu'en littérature, vous n'avez pas peur de l'arrogance, que vous êtes là pour dire la vérité.
Oui, mais je suis plongée dans la société. Voilà, dire que je serais plus libre que les autres me paraîtrait... C'est pas possible. Mais non, ce qui est vrai, c'est que je crois qu'en étant vivant, en ayant posé mon travail, la littérature, écrire des livres comme priorité, priorité de mes journées. Et en vivant à peu près seule, même si j'ai bien sûr des relations avec des tiers, les choses sont beaucoup plus simples. Il y a une sorte de simplification. Et comme il se trouve que ce travail, je l'ai défini en... Il y a beaucoup de choses, mais c'est quand même une exigence de recherche du juste encore, ou du vrai, d'essayer d'attraper quelque chose de vrai, non pas de l'écrire noir sur blanc, mais de l'évoquer, il y a beaucoup de choses qui s'alignent après.
Avez-vous peur de déplaire? Avez-vous peur de parler de certaines choses dans vos livres? Est-ce que vous interdisez parfois de mettre des gens que vous fréquentez dans vos livres?
Assez peu, je crois.
Et ça ne vous fait pas peur?
Le livre est toujours plus important. Non, mais je suis pas là pour blesser les gens ou c'est pas le sujet. Mais j'utilise des il me semble évidemment, je m'inspire du réel, donc je m'inspire de moi-même, des gens que j'ai rencontrés. Sinon, je vais parler de la table, mais ça risque d'être plus ennuyeux.
Sauf si vous êtes Francis
Mais
Ponge.
Je crois que j'essaye d'utiliser tout ça comme pour essayer de donner des figures de l'humanité. Voilà, je prends celles qui sont là. C'est plus pour servir le livre que pour régler des comptes. Enfin, j'espère que c'est vraiment pas le sujet. Et comme ce que j'essaye de faire me paraît plus important que le reste, voilà. Si c'est juste, si je vois que ce que j'ai écrit me paraît juste, me paraît saisir quelque chose de vrai, non pas de la personne qui inspire le personnage, mais d'une situation, d'un sentiment, alors je laisse, c'est tout.
Vous avez écrit Non, NOM, dans lequel vous proposez un programme politique. Vous êtes pour la suppression de l'héritage, de l'autorité parentale, de l'état civil, de la filiation, contre le patrimoine, la nationalité, la famille, et aussi pour la suppression de l'enfance, si on peut, ajoutez-vous. Comment est-ce qu'on pourrait imaginer une suppression de l'enfance ?
Non, bien sûr, c'était évidemment un peu à la blague ou à un moment du livre, comme ça. Mais... Oui, enfin, pour ce qui est de l'enfance, je ne sais pas. C'est-à-dire, d'une part, on en parle beaucoup et peut-être trop, comme fondation de tout ce qu'on serait. Et il n'est qu'à voir les différences dans une famille entre des frères et des sœurs pour comprendre que, même si je ne dis pas que ça ne compte pas et que ce n'est pas constitutif d'une grande partie de ce qu'on est, mais qu'en réalité, c'est pareil. Il me semble qu'on peut réagir aux événements de façon différente. Que la liberté, pour moi, elle est là. Elle est dans la façon dont on réagit aux événements.
On peut combattre le déterminisme familial ?
Je ne sais pas ce que c'est que le déterminisme.
Parce qu'on souvent, on se construit soit avec, soit contre ses parents la plupart du temps. Est-ce qu'on est parfois rattrapé par...
Je crois qu'on peut, par rapport à n'importe quel événement, on a une immense variété de réactions, de décisions, de possibles, de façons de penser l'événement et de se créer soi-même à partir de l'événement. Et puis on ne se crée pas qu'à partir des événements. Je crois qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont un livre qu'on va lire, quelqu'un qu'on a aperçu comme ça deux secondes quand on avait 7 ans et demi, qui va vous aider à vous construire, à vous inventer. Et je crois que c'est des choses qui sont très importantes. Et puis il n'y a pas que l'enfance. Je veux dire, parfois j'ai l'impression qu'on parle des gens comme s'ils étaient, ce qui leur est arrivé, c'est-à-dire pas ce qu'ils ont fait eux-mêmes, mais ce qui leur est arrivé à l'âge où ils sont le moins libre possible, et avant, de préférence avant 14 ans. Bon, moi maintenant j'ai 53, on parle toujours de l'enfance, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais beaucoup d'autres années qui ont été très très importantes dans ma vie. Et que par ailleurs, l'enfance est souvent plutôt un mauvais moment, et c'est pas grave. Et je veux dire, tant mieux si c'est aussi un mauvais moment, parce que si c'était qu'un bon moment, si ça n'était qu'un bon moment et qu'on se réveille à 18 ans dans le monde en se disant, ah mais dis donc, en fait, ça, c'est une autre affaire, cette histoire, vaut mieux qu'on soit un peu préparé.
Vous dites d'ailleurs dans une interview, si on n'envisage pas l'existence comme un risque, on est en faute morale.
Ah bon? Comme un rite?
Comme un risque.
Ah, comme un risque. Oh là là, c'est des grands mots parfois. Non, mais voilà, enfin, c'est fait de... Ou alors, on peut y a autre chose, c'est comme un personnage de jeu vidéo. Bah oui, bah, y a des épreuves, des examens, on se casse en... ou comme Ulysse. Encore une fois, sans les épreuves, y aurait pas de personnage, y aurait pas d'histoire, y aurait pas de... on n'apprendrait rien sur soi, on n'apprendrait rien sur le monde, on serait à côté de la vie.
Est-ce qu'il vous arrive de vous trahir?
Oh, certainement, oui, tout le temps.
Et pourtant, c'est important pour vous de ne pas le faire.
Oui, mais je suis pas impeccable. Non, je pense pas. Mais c'est un peu général, mais je pense que je me trahis.
Est-ce qu'il vous arrive de vous sentir coupable?
Oh, bien sûr.
Et comment est-ce
la culpabilité gouverne le monde.
Comment est-ce qu'on fait avec ce sentiment? Il est terrible, quand même.
Bah, on fait avec.
Mais il doit servir parfois, j'imagine.
Enfin, en tout cas, c'est un peu un cliché, mais pour ce qui est de... Quand on a un enfant, oui, je crois que tout d'un coup, on se sent vachement coupable. Ouais.
Coupable de quoi? De s'être reproduit? Bah,
de jamais être
la mère
aussi
parfaite.
Bien qu'on devrait, ou... je sais pas. Mais c'est pas grave, on vit avec, et on s'en allège, et c'est intéressant, ça produit des choses aussi.
Vous avez publié Offense, qui était un premier texte qui s'éloignait de l'autofiction, et vous disiez que c'était très agréable et reposant de s'éloigner de votre autofiction.
Ah, certainement, oui.
Vous allez y retourner?
C'est pas prévu. Pour l'instant, non, j'ai eu le sentiment, j'ai beaucoup aimé la première personne, je trouve que c'est quelque chose de passionnant comme instrument. La première personne de l'autofiction, non pas le sujet du livre, parce que je ne pense pas que c'était un livre sur le... Mais disons le véhicule principal, dans les trois premiers, la Playboy, Love Me Tender et Non. Et ça m'intéressait beaucoup de travailler avec ça, avec l'ambiguïté, qui a dans la enfin quelque chose de très direct, de très puissant, de très immédiat, et puis l'ambiguïté de cette première personne.
Comme Saint Augustin que vous admirez.
Oui, enfin oui, d'une certaine manière. Et c'est pas le seul à avoir utilisé de la première personne, mais oui, bien sûr. Mais ensuite il y a une sorte de confusion qui m'a un peu. D'abord j'étais un peu lasse de ça. Voilà, je l'avais fait trois fois de façon, je pense, un peu différente à chaque fois, mais j'étais un peu lasse de. J'avais envie d'essayer autre chose. Et j'avais l'impression que le jeu, la première personne, écrasait un peu parfois. D'abord la langue, et je voulais explorer d'autres choses que je pouvais pas explorer par la première personne, et qu'ensuite il y avait une sorte de parfois de confusion dans la réception de mes livres entre le livre et le narrateur et l'auteur. C'est-à-dire que, comme si je racontais ma vie, alors que tout mon travail était de casser toutes ces choses-là, ces pièces-là, pour que le jeu soit pas moi, et que les événements, que des événements que j'utilisais vraiment comme prétexte naissent quelque chose qui s'appelle un texte, une langue, autre chose. Et j'ai, voilà, et donc ça écrasait un peu. Il y a une force, mais une force qui écrase aussi parfois certaines choses. Donc j'en avais assez.
France Inter. La 20e heure, Eva Bester.
Constance Debray, vous publiez Protocole chez Flammarion et en exergue, vous avez mis Saint-Paul, au pur, tout est pur. Pensez-vous que la pureté existe ?
Elle est toujours dangereuse.
Ah oui, en quoi ?
Bah quand on commence à... Disons que ceux qui ont le plus parlé de pureté ont généralement fait les choses les pires. Donc...
Oui, c'est vrai, je viens d'avoir quelques flashbacks. Êtes-vous pur ? Mais là, pas dans le sens de...
Certainement pas. Et d'ailleurs, je pense que le roman est un genre très impur.
Est-ce que vous auriez la gentillesse de lire le début de votre livre ?
Vous avez été condamné à mort. Cette réunion a pour objet de vous informer des règles et procédures applicables les 35 prochains jours. À l'issue de cette réunion, vous serez amené dans une cellule spéciale où vous demeurerez jusqu'à votre exécution. Votre cellule sera équipée d'une télévision, la lumière sera toujours allumée. Vous serez sous constante surveillance. Les seuls objets personnels autorisés seront 30 cm cubes de documents juridiques, 30 cm cubes de documents religieux, du papier, un stylo, un livre ou magazine, lequel pourra être changé chaque jour. Des produits d'hygiène élémentaire, dentifrice, savon, vous seront remis le temps d'en faire usage et retirés ensuite. Le reste de vos affaires sera inventorié et placé sous scellé dans le bureau des affaires personnelles. Il vous appartient de prendre les dispositions quant à leur destination après votre exécution. Si vous quittez la cellule pour quelque raison que ce soit, vous devrez être fouillé et menotté. En cas de maladie ou de blessure, vous serez autant que possible soigné dans votre cellule. Chaque jour, vous pourrez être contacté par le responsable de votre dossier, ministre religieux, psychologue, un membre du service médical ou des services personnels. Le chaplain de la prison sera constamment disponible et à votre disposition durant les dernières 24 heures de la période. Des visites sans contact seront limitées à 2 visiteurs à la fois, figurant dans votre liste de visiteurs autorisés et pendant les horaires de visite. Les privilèges de visite se termineront à 21h, le jour précédant votre exécution. Vous serez autorisé à recevoir vos avocats, 2 maximum, jusqu'à 2 heures précédant le moment de votre exécution. Les dispositions de votre enterrement devront être prises par votre famille. Si votre famille ne prend pas de disposition avec une entreprise de pompes funèbres, l'État s'occupera de votre enterrement.
Juste après cela, vous écrivez... Constance Debray, la loi rend toute la littérature obsolète. J'ai lu, j'ai traduit, j'ai recopié le document, il n'y avait rien à retrancher. Et depuis 2 ans, je ne lisais que des protocoles d'exécution. Et moi, ça m'a fait penser à Stendhal, qui lui lisait tout le temps le code civil, justement pour se purifier, si je veux reprendre un mot qu'on a évoqué, de tout style. Je crois que vous trouvez la langue du droit d'une grande beauté.
Oui, bah en effet, ça dépend, la langue du droit, il y a en réalité plusieurs langues du droit, et celle dont parle Stendhal, c'est-à-dire celle du code civil, la langue du droit qui est issue de la Révolution est très très belle, elle est impeccable, elle est très précise, elle est très sobre, et c'est, ça je partage son goût. Celle des protocoles d'exécution, d'abord elle est en anglais, je ne sais pas si elle est belle. En tout cas, elle est froide et technique. Mais si j'aime la langue du droit, si j'aime cette beauté-là, je suis pas sûre que je me suis intéressée au protocole d'exécution dans cette optique, disons, d'inspiration esthétique.
Vous dites que vous avez toujours aimé les systèmes comme les maths, la philosophie, qui prétendent contenir le monde et son chaos dans un espace clos avec des règles, que ça vous rassurait. Et là, on touche au fantasme ultime, c'est le contrôle de sa propre mort, la mort légale.
Oui, ça c'est vrai que j'aime les pensées de système, parce qu'elles sont rassurantes et folles en même temps, puisqu'on sait très bien qu'on ne contient pas le chaos du monde. En tout cas, essayer d'approcher la question des questions de la mort et d'essayer de saisir une société ou un monde hanté par la mort et le mal, par le biais de la loi, qui est une aspiration au bien, mais qui manifestement échoue, aussi, elle me paraissait un peu excitant, en fait.
Alors, en parlant d'excitation, vous qualifiez les protocoles d'exécution aux États-Unis de pure pornographie du réel. Et alors, dans une interview de 2018, vous disiez « Je peux regarder seul des films porno, mais voir des gens s'embrasser dans un film classique me met mal à l'aise. Ce sont deux modes d'expression très différents. »
Entre quoi ? Un film porno et...
Et voir des gens s'embrasser qui peut vous gêner, bizarrement.
J'aime pas tellement ce qui est sentimental. Voilà, c'est pas mon goût.
Mais vous ne l'êtes pas du tout.
Les gens ont le droit de s'embrasser et je pense que ça m'arrive assez souvent de voir des gens s'embrasser au cinéma et je m'en remets.
Vous êtes sentimental ou vous ne l'êtes pas? Pourquoi n'aimez-vous pas ce qui est sentimental?
Je n'aime pas les sentiments dans le, comment dire, l'expression des sentiments, la surexpression des sentiments. Je suis pas contre les sentiments.
Vous en éprouvez.
Évidence. Je n'écrirais pas des livres si j'étais pas ces choses-là ne m'intéressaient pas. Mais
vous avez un style clinique quand même froid.
Oui. Je préfère quelque chose de froid pour faire sentir le reste. Pour faire sentir. Je préfère faire sentir la tristesse que dire je suis triste ou dire c'est triste. Je préfère faire sentir l'horreur plutôt que de dire ah c'est horrible. Parce que voilà, c'est mon goût et je pense par ailleurs que je sais pas, c'est quand même c'est on baigne dans une espèce de soupe de sentiments moi qui m'écœure.
Il paraît que vous détestez les smileys.
Ah oui, bon j'en utilise.
C'est vrai.
Non, les smileys, j'ai dû mettre ça dans un livre, mais oui, les émoticônes, c'est très pratique.
Bon ben il y a des évolutions alors.
Voilà. Le lecteur serait certainement déçu, Jean Baudrillard, s'il s'imaginait pouvoir trouver dans votre livre la vérité de l'Amérique, parce qu'il n'y a pas de vérité de l'Amérique.
Oui. Non, il n'y a pas de vérité de l'Amérique. Non, moi, je n'ai pas cherché une vérité. Je crois vraiment que c'est la vérité, si elle existait, elle aurait existé en Europe, peut-être, mais là-bas, je crois qu'on est au-delà de cette chose-là. Mais moi, je ne l'ai pas cherché du tout. Je n'ai demandé vraiment à l'Amérique que d'être l'Amérique, c'est-à-dire de sortir d'un espace où je ne trouve plus de toute façon de vérité non plus, mais où c'est vécu de façon malheureuse, alors que là-bas, l'absence de vérité est vécue de façon fascinante. Ça a quelque chose de... C'est pour ça que c'était un petit peu la fin du monde aussi. La fin de notre monde, qui est un monde quand même beaucoup plus imaginaire. Or, là-bas, il n'y a pas d'imaginaire, c'est de la fiction pure. Hein? Les choses y sont réelles, mais en même temps, elles sont toujours fictionnelles par le fait qu'elles sont toujours à l'état d'hyper-réalité.
Bon, moi, dès que je peux passer du Jean Baudrillard, je suis contente et j'adore son livre « Amérique ». On l'entend au micro d'Alain Weinstein pour son essai « Amérique », justement, sur France Culture en 86. Constance Debré, dans votre livre « Protocole », on comprend qu'on est aux États-Unis, mais vous ne le dites jamais directement. On comprend que c'est un pays où il fait toujours beau, où tout le monde sourit, où il y a une grande violence, où les choses sont inquiétantes. Et c'est aussi le pays des sectes, de l'argent, des serial killers, des théories, des religions, des astrologues et des complotistes. Pourquoi ne pas avoir nommé le lieu ?
Parce que c'est pas un livre sur l'Amérique, de la même manière que c'est pas un livre sur les protocoles d'exécution. Bien sûr, tout est là et je voulais pas le cacher.
C'est pas sur les protocoles d'exécution.
Non, c'est une matière que j'utilise.
Vous les détaillez tous.
C'est-à-dire, ce que j'essaye de faire, c'est, je pense, comme dans tous les livres ou les films aussi qui m'intéressent, il y a plusieurs niveaux de lecture. Il y a un niveau littéral. Donc, il y a un niveau littéral dans protocole qui est que oui, c'est en effet un niveau littéral, c'est sur les protocoles d'exécution, ce qui me paraît très intéressant. Ça, c'est la part de de la pornographie du réel. Et j'avais envie qu'on sache en fait comment ça se passe pour de vrai. Parce que il me semble qu'on est responsable du réel. Donc ça, c'est le premier stade. Et bien sûr que ces choses-là se passent aux États-Unis, qui il y a quelque chose de passionnant sur l'Amérique, mais ça, on peut en parler des heures. Mais il y a aussi d'autres niveaux. C'est pour ça que je dis pas que c'est sur les protocoles, où je ne fais pas qu'un livre. C'est une partie de une matière que j'utilise parmi d'autres, parce que ces choses-là me paraissent dire autre chose que une petite poche du réel que serait la peine de mort et les exécutions, ou une part du monde que serait l'Amérique. C'est-à-dire que je crois que ça parle aussi de notre condition humaine en général, et en particulier à notre époque. Parce que si l'Amérique a des spécificités, on vit aussi dans le même monde. Non pas qu'on vive dans un monde américain, mais d'abord, on est tous les jours concernés par ce qui se passe là-bas. Les mondes sont mêlés, hein, je crois qu'on a bien compris. Et non, c'est la société occidentale quand même, toute cette affaire.
Ce qu'on apprend de très frappant grâce à vous dans Protocole, c'est que déjà il n'existe pas d'image, enfin il y en a quelques-unes, mais normalement il n'existe pas d'image représentant la mort légale, alors qu'on est quand même noyé chaque jour par des images bien pires de morts autres. Et la seconde chose, c'est que les gens qui exécutent justement le protocole n'ont aucune connaissance médicale. Les médecins ne viennent que pour constater la mort. Ça paraît d'une absurdité terrifiante.
Oui, mais les médecins n'ont pas le droit c'est des serments d'Hippocrate ou je ne sais quoi, de donner d'user de leurs connaissances pour tuer un homme, enfin, sauf, bon, après, on en a d'autres choses, mais en tout cas pour ça. Donc ça, c'est pas possible. Quant à la question des images, c'est-à-dire que pour éviter, sans doute préserver une forme de la dignité de celui qui est condamné d'abord, et puis parce que on a quand même des images de lynchage où là, on n'a pas envie de revoir. Les exécutions sont rentrées dans les prisons et elles ne sont pas filmées. Ni même photographiés, mais il y a quelques photographies qui ont fuité, mais c'est très très rare. Et oui, bien sûr qu'à un moment où tout est montré, ça paraît très choquant. Mais voilà.
Il y a des chambres à gaz à une ou deux places. Il y a l'injection létale qui se passe quand même mal la plupart du temps. Il y a le peloton d'exécution,
ouais.
La chaise électrique.
Non, mais c'est ça. On peut en parler dans des heures. Ça, c'est intéressant en soi, toute cette matière. Mais je voulais montrer le. Voilà, c'est ça le réel, en fait. Et quand par exemple, on parle, voilà, très bien, parlons, pourquoi pas, de la peine de mort. Alors, les gens vont avoir des avis à l'infini. Ou parlons de la mort. Vous voyez, la mort. Bon. Eh ben, je voulais savoir comment ça se passait pour de vrai. Et je voulais voir dans quelle mesure la littérature pouvait... parce que ce qui m'intéresse, c'est la littérature. Donc, ok, je vais parler des protocoles, mais ce qui m'intéresse, c'est jusqu'où on peut aller en littérature. Et derrière ce livre, moi, j'avais deux préoccupations, deux intentions. C'était, est-ce que je peux faire un livre qui traverse une matière dure, sans histoire, sans personnage? Parce que moi, j'ai plus envie de cette structure classique du roman à personnage et à histoire, ni avec la première personne, qui est une manière de résoudre ça. Donc quelque chose d'assez comme ça, en posant du réel, un réel qui va, ou des choses qui seront difficiles, qui seront en elles-mêmes limites. Je pense que la littérature. Pour moi, je peux pas commencer un livre sans me dire où est-ce que je peux aller trop loin ou juste avant le trop loin. Et la limite du trop loin, c'est le moment où je perds le lecteur. Donc c'est ces questions-là qui président à ce livre-là. Et Je sais plus quelle était votre question, évidemment, mais...
Parce que j'étais trop concentrée sur ce que vous disiez pour me souvenir de ce que j'avais dit, moi.
C'était ça, oui, c'était la question de cette forme sans personnage et sans histoire, et puis une matière vraie qu'on veut pas voir, et qu'en la remettant dans le réel, à ce moment-là, on va pouvoir la voir. À un niveau littéral pour ce qu'elle est, parce que c'est le monde dans lequel on vit, et à un niveau qui nous permet, parce qu'il n'est pas que littéral, d'en voir une forme de beauté. C'est-à-dire, je crois qu'on ne peut faire encore une fois du beau qu'avec l'horreur du monde. En tout cas, c'est notre sort. D'une chanson écrite par Lynch pour un de ses films. C'est une manière de tricher pour parler de Lynch, qui est mort il y a un an, et qui, pour moi, est un des réalisateurs les plus importants. Qui dit parfaitement espèce de sentiment que j'ai du monde qui est au bord de déraper, ou qui a déjà dérapé, où il y a des passages entre le cauchemar et le vrai. Et alors, justement, oui, s'il y en a un qui a fait du beau avec l'horreur du monde, c'est lui.
Alors, en parlant de cauchemar, justement, il nous reste un peu plus d'une minute pour aborder la découverte que vous avez choisie pour les auditeurs. Il se trouve que c'est un film que j'adore aussi. C'est Massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper. Et je vous disais, juste avant qu'on commence l'émission, que l'horreur dedans, c'était pas le type avec la tronçonneuse, mais c'était l'Amérique qui nous est montrée.
Oui, c'est l'Amérique ou le monde lui-même, mais moi c'est un film que j'ai vu il y a quelques semaines ou un mois, et vraiment par hasard, qui m'a beaucoup surprise. C'est moins un film effrayant que terriblement angoissant, d'une immense beauté formelle. Les images sont incroyables, comme ça, cette espèce de lumière, et on sent presque la chaleur du Texas l'été. Je l'aime parce que c'est un film sans explication, et qui a exactement plusieurs niveaux de lecture. Si on n'a plus le temps, allez voir Massacre à la tronçonneuse. Voilà. Alors, The Texas Chainsaw Massacre en anglais, je trouve ça encore mieux.
Il nous reste tout de même quelques secondes pour un petit conseil de lecture. Je crois que vous aimez Ignace de Loyola, Proust, Huysmans, Didion ou Manchette. Un ou deux titres.
Je vais dire Huysmans parce que je l'ai lu en même temps que je voyais Massacre à la tronçonneuse. Je lisais là-bas.
Ah oui, sur le satanisme et Gilles de Rais.
Ça me paraît très bien. Je recommande le combo Huysmans, Massacre à la tronçonneuse.
Ah voilà, très bonne soirée en perspective. Merci beaucoup, Constance Debray. Je rappelle que vous venez de publier Protocole chez Flammarion. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Fanny Leroy, Franck Olivard et Anaïs Boucher. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin, à la technique, Loïs Moreau.